Madame la ministre, bonjour. Merci d'abord de nous recevoir ici au ministère de l'Éducation nationale au moment où vous allez signer avec le président du syndicat national des radiolivres, Emmanuel Boutrin, une convention nationale qui va permettre de développer les relations partout en France entre les écoles et les radios associatives. Tout ça au profit des élèves et de l'éducation aux médias et à l'information. Nous sommes actuellement, rappelons-le, en plein dans la semaine nationale de la presse et des médias à l'école. Avec vous derrière les micros, Marine, Simon et moi-même, Margot, lycéen, Camille et Jeanne, collégiennes de Ciel-Guillaume dans la Sarthe. Marine ?
Madame la ministre, c'est actuellement la semaine de la presse à l'école avec pour thème la liberté d'expression, ça s'apprend. La liberté d'expression est un droit fondamental et ce qui est parfois difficile, c'est l'accès aux moyens pour se faire entendre. D'après vous, qu'est-ce qu'on doit apprendre pour accéder à une liberté d'expression responsable et qui doit nous l'enseigner ? L'école, les médias, la famille ?
Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à cette émission. Je suis ravie de pouvoir vous répondre. Écoutez, d'abord, vous l'avez dit, c'est la semaine de la presse à l'école. C'est une semaine importante parce que ça signifie que dans beaucoup d'établissements scolaires, 16 000 pour vous dire les choses précisément, en France, vous avez de nombreux titres de presse et organes de presse qui ont accepté à la demande de l'Éducation nationale d'aller intervenir, de faire des projets, d'expliquer le travail des journalistes, etc. auprès des élèves, de les aider aussi dans la mise en place de leur propre radio collégienne ou lycéenne ou journal collégien ou lycéen. Pourquoi est-ce que cette semaine est importante ? Parce que nous estimons que l'éducation aux médias et à l'information, c'est une chose essentielle. Et que ça s'apprend, en effet. Et comme le dit cette semaine, la liberté d'expression, ça s'apprend. Alors, c'est quoi la liberté d'expression ? D'abord, il y a deux mots dans cette expression. Il y a liberté et puis expression. Commençons par le deuxième mot, expression. Ça veut dire le droit que vous avez, que nous avons tous, de nous exprimer, de dire ce que nous pensons, ce que nous jugeons, comment nous voyons les choses. Et c'est important que vous, les jeunes, vous ayez conscience de ce droit que vous avez. Mais en même temps, la liberté d'expression, ça suppose une responsabilité, un devoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'exprime publiquement, où on a des chances d'être lu, d'être écouté par d'autres, il faut faire attention à ce qu'on dit et il faut, dans la mesure du possible, préciser d'où l'on parle et adopter un certain nombre de règles qui sont celles qu'adopte aujourd'hui le monde médiatique, journalistique, qui sont des règles dites d'éthique, de déontologie. Et donc, lorsque on écrit une information qui se veut être une information, il faut d'abord l'avoir vérifiée, l'avoir sourcée, avoir fait ce travail d'investigation qui vous permet d'informer. Bien sûr, vous pouvez écrire des textes qui relèvent de l'opinion, c'est encore autre chose. Mais c'est important que les jeunes puissent bien faire la différence entre ce qui relève de l'information et ce qui relève de l'opinion pour ne pas tomber dans un certain nombre de pièges dont on voit aujourd'hui qu'ils sont très fréquents, notamment sur Internet, où parfois on croit être informé et en fait on est désinformé par des sites de propagande, des sites qui racontent un peu n'importe quoi. Donc c'est très important pour nous que vous fassiez l'expérience de cette liberté d'expression pour comprendre comment ça fonctionne, quels sont les droits et les devoirs qui vont avec, pour ensuite être capable, vous, d'avoir un esprit critique par rapport à ce que vous lirez ou ce que vous entendrez.
Simon ?
Madame la ministre, après les dramatiques attentats de janvier 2015 qui ont frappé entre autres la presse avec Charlie, vous avez souhaité que chaque école développe un média. Êtes-vous donc convaincue qu'apprendre les médias, ça passe mieux en étant acteur ? Et pour vous, le plus important, c'est la connaissance technologique des médias ou apprendre à construire des messages d'information ?
D'abord, une chose importante, c'est qu'on vient de parler de la semaine de la presse à l'école, qui a lieu cette semaine comme tous les ans, mais il n'y a pas que au moment de la semaine de la presse à l'école qu'on traite de cette question d'éducation aux médias dans les écoles et les établissements scolaires. C'est important que toute l'année, on puisse vous accompagner sur ce chemin-là. Et il y a deux façons, trois façons peut-être, de vous accompagner dans cette éducation aux médias et à l'information. La première façon, c'est de l'inscrire dans les programmes d'enseignement, de faire en sorte que vos profs, vos professeurs documentalistes puissent régulièrement vous éclairer sur cette façon dont on lit la presse, dont on découvre les images, les informations audiovisuelles pour mieux les comprendre. Ça, c'est désormais, à partir de la rentrée prochaine, dans les programmes scolaires. Il y a une deuxième façon de vous accompagner sur ce chemin de l'éducation aux médias et à l'information, c'est de faire intervenir régulièrement dans vos établissements scolaires des journalistes. C'est d'ailleurs l'un des objets de la convention qu'on va signer dans un instant, c'est de permettre à des groupes de presse, en l'occurrence le syndicat des radios libres, de pouvoir envoyer régulièrement des journalistes dans les classes pour expliquer leur métier et puis pour tout simplement vous éclairer. Puis la troisième façon de vous accompagner sur ce chemin, c'est que vous fassiez vous-même l'expérience de ce qu'est un média en fabriquant un vous-même. Donc oui, faire l'expérience de son propre journal collégien, de sa propre radio lycéenne, c'est extraordinaire parce que finalement, c'est la meilleure façon de prendre conscience des difficultés, des contraintes, de la complexité qui guide le travail de journaliste, parce qu'il faut aller chercher des informations, il faut, quand on a une information, chercher à la croiser avec d'autres sources pour vérifier si elle est vraie ou pas. Il faut essayer de présenter les choses de la façon la plus objective possible, car c'est ce qui distingue, je disais tout à l'heure, l'information de l'opinion. Donc quand on informe, on dit les choses de façon objective, ce qui ne veut pas dire qu'on est neutre. On peut avoir malgré tout une coloration. On voit bien quand on prend les titres de presse que si vous lisez Le Figaro, si vous lisez Libération, c'est tous les deux des journaux objectifs, mais ils ne sont pas neutres, ils ont une ligne éditoriale. Et bien vous, vous faites l'apprentissage aussi de cette ligne éditoriale que vous pouvez choisir de vous-même. Et puis, enfin, la dernière chose que vous permet l'expérience d'un média collégien ou lycéen, c'est que vous apprenez à vous exprimer. Parce qu'une fois qu'on a l'information, mais quand on cherche à la faire partager aux autres, soit on est dans de la presse écrite, et dans ce cas-là, on essaye d'avoir une belle langue, un beau style pour donner envie aux lecteurs de vous lire, soit on est à la radio et on fait en sorte de dire le plus explicitement possible et le plus synthétiquement, généralement possible, le message qu'on a à dire pour que l'attention des auditeurs soit toujours là. Donc c'est la meilleure des expériences qu'on puisse faire pour les lycéens et les collégiens que vous êtes. C'est pour ça qu'on a décidé d'augmenter considérablement le nombre de médias collégiens et lycéens. Je l'avais annoncé en janvier 2015. C'était vraiment une priorité pour moi et de fait, aujourd'hui, on voit que, par exemple, on a doublé le nombre de web radios dans les établissements scolaires, qu'on a de plus en plus de journaux qu'on soutient, y compris financièrement, mais ça nous semble essentiel.
Les radios locales sont présentes partout. Dans notre département, il y en a 8, aussi bien en ville qu'en zone rurale. Il y en a 680 en France. Quel regard avez-vous sur le potentiel de coopération que ça représente sur les territoires avec les écoles et quels sont les plus éducatifs que vous y voyez ?
En fait, finalement, quand on dit les médias, on a l'impression qu'on parle d'un ensemble uniforme. C'est évidemment pas un ensemble uniforme. Dans les médias, il y a de tout. Il y a des médias qui sont d'un niveau international. Ce matin même, j'étais en train de signer une convention avec France Média Monde, donc France 24, RFI, TV5. Voilà, des médias internationaux. Vous avez des médias nationaux, parmi lesquels vous avez donc la presse écrite, de l'audiovisuel. Puis vous avez des médias locaux. Et dans les médias locaux, vous avez là encore de la très belle qualité. Les médias locaux répondent finalement à deux objectifs qui sont vraiment essentiels. À la fois l'information générale sur ce qui se passe dans le pays, voire dans le monde, mais aussi l'information locale, voire micro-locale. Et pourquoi est-ce que c'est important l'information de proximité comme ça ? Parce que ça permet de créer du lien. C'est-à-dire, c'est dans un média local, que ce soit une radio locale ou le journal La PQR, la presse quotidienne régionale, que vous allez prendre connaissance de la kermesse du quartier, de l'ouverture d'une crèche, que sais-je. Donc c'est des informations extrêmement de proximité qui permettent finalement de s'inscrire dans son territoire et de le vivre mieux. Donc moi, je suis très attachée à l'existence de ces radios locales.
Marine ?
La radio reste un média important et dans lequel les citoyens disent avoir plutôt confiance. Les habitudes d'écoute changent, même si moins de 10% des auditeurs seulement disent consommer la radio par Internet ou sur leur téléphone. En même temps, les réseaux sociaux et Internet se considèrent souvent comme des médias. Et là, tout circule, des infos intéressantes souvent, mais aussi des fausses informations, des rumeurs, les théories du complot. Que met en place le ministère pour lutter contre ces désinformations qui peuvent conduire au pire, comme la radicalisation de djihadistes ?
La désinformation est un sacré défi, vraiment. Et moi, je considère comme ministre de l'Éducation nationale, mais même tout simplement comme adulte et comme mère de famille, je considère que c'est l'un des sujets les plus importants que nous ayons à gérer pour les prochaines années, dont on voit d'ailleurs les conséquences néfastes aujourd'hui, parce que des jeunes qui sont désinformés, des jeunes qui ne trouvent leurs informations que sur Internet, que sur les réseaux sociaux, finissent par vivre dans un monde virtuel d'une certaine façon, qui est un monde généralement qui remet en question les institutions, qui est un monde dans lequel on vous raconte que on ne vous dit rien, on vous cache tout, etc., que les journaux officiels vous manipulent. Donc c'est très compliqué ensuite de sortir les jeunes de ce monde intellectuel dans lequel ils se sont enfermés quand ils ont consulté uniquement ce type de site complotiste ou conspirationniste. Donc c'est pour nous vraiment une nécessité que de lutter contre cela. Comment on fait ? La meilleure façon, là encore, c'est un peu ce que je vous disais à propos des médias lycéens et collégiens, la meilleure façon c'est d'expérimenter soi-même les choses. La meilleure façon de comprendre comment on se méfie de la désinformation, eh ben, c'est de comprendre les mécanismes qui conduisent à la désinformation. Il y a un mécanisme, par exemple, très simple, facile à repérer, c'est que quand une information, entre guillemets, n'est pas signée et produite de façon anonyme ou avec un pseudo, c'est ce qu'on trouve sur les forums, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, eh bien, dites-vous qu'elle est sujette à caution. Dites-vous que ça n'est pas fiable, parce que si on parle d'information, ça doit être signé. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la singularité des journaux par rapport à ce qu'on trouve sur Internet, c'est que les journalistes, eux, ils signent. Ils avancent à visage découvert. Et c'est ça la responsabilité que j'évoquais tout à l'heure. C'est à partir du moment où les gens avancent à visage découvert qu'ils peuvent obéir à une certaine éthique, à une certaine déontologie. Donc, un, méfiez-vous de tout ce qui circule anonymement. Et puis ensuite, moi je sais que dans de nombreuses classes, dans de nombreux établissements scolaires, des professeurs un peu innovants ont fait travailler leur classe sur « allez, on va créer de toutes pièces une théorie du complot pour que vous puissiez voir que c'est très facile en fait de la créer et que vous puissiez vous méfier la prochaine fois que vous y serez vous-même soumis ». Donc je pense que c'est la bonne façon de travailler sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons décidé de créer des outils pour les enseignants pour qu'ils puissent plus régulièrement évoquer ces sujets-là avec leurs élèves, sachant que le nouvel enseignement moral et civique, j'espère que vous l'avez désormais dans vos classes, est un moment privilégié pour aborder ces questions, pour demander aux élèves ce qu'ils ont retenu de tels faits d'actualité, pour se rendre compte qu'en fait ce qu'ils en ont retenu c'est des informations qui viennent de canaux absolument pas fiables, et pour remettre ça en question, les pousser à s'interroger.
Camille.
Madame la ministre, l'année dernière on a fait des activités périscolaires, les TAP. On a fait du sport, du théâtre, de l'anglais, du scrapbooking, du kirigami, de la menuiserie, enfin plein de choses, on a fait de la radio. C'était bien. Aujourd'hui, les maires disent que cela coûte trop cher et qu'ils vont arrêter. Qu'en pensez-vous ?
D'abord, je suis ravie d'entendre tout ce que vous avez fait et honnêtement, je vais vous dire, je suis jalouse. Je suis vraiment très jalouse parce que j'aurais adoré, quand j'étais enfant, avoir cette chance et ces opportunités fantastiques, au-delà de ce qu'on apprend à l'école, d'apprendre d'autres choses qu'on n'apprend pas à l'école, qui sont moins académiques, qui sont plus de l'ordre du loisir, de la culture, de la pratique sportive, et surtout d'avoir un éventail aussi large, parce que finalement, peut-être que vous n'allez pas tout apprécier dans ce qui vous a été proposé, peut-être que finalement, vous retiendrez qu'une des activités parmi les nombreuses tables qui vous ont été offertes de découvrir. Mais au moins vous aurez eu cette vision-là. Alors que jusqu'à présent, quand les activités périscolaires n'existaient pas, quand on ne demandait pas aux mairies de les organiser, il y avait des enfants qui avaient la chance de pouvoir aller au conservatoire ou dans une association sportive pour tester des activités, puis d'autres non, jamais. Donc la grande nouveauté, c'est qu'en fait, là, on a ouvert un droit pour tous les enfants de découvrir des activités artistiques, culturelles et de loisirs et de sport. Et ça, c'est un gros progrès. Alors, évidemment, tous les progrès ont un coût. On ne fait jamais les choses gratuitement. Donc, bien sûr, les activités périscolaires, ça coûte aux mairies, ça leur coûte de l'argent. Mais l'État ne les laisse pas toutes seules. L'État est là pour les aider. Hein. Il les finance en grande partie, ces activités périscolaires. Et moi, vraiment, j'insiste auprès de toutes les mairies que je vois pour qu'elles mettent beaucoup d'ambition dans ces activités périscolaires en leur disant « on est à vos côtés, c'est dans l'intérêt des enfants ». Et la nouvelle semaine telle qu'elle existe maintenant grâce à la réforme des rythmes scolaires, c'est aussi une semaine où vous allez à l'école 5 matinées par semaine au lieu de 4. Au lieu d'avoir tous vos cours concentrés sur 4 journées où vraiment au bout d'un moment vous étiez épuisé et vous ne reteniez plus les informations qu'on vous transmettait, maintenant c'est plutôt le matin que vous travaillez, vous êtes plus attentif et il y a de meilleurs résultats scolaires qui se dégagent de tout ça, et donc je pense que c'est une belle réforme.
Jeanne.
En faisant de la radio, on apprend plein de choses et parfois on a des copains qui réussissent mieux à la radio que dans les cours habituels. Comment est-ce que ça pourrait être dit dans les bulletins trimestriels, par exemple ?
Tu viens de dire une chose très importante, Jeanne, c'est que parfois, c'est en effet en faisant les choses autrement qu'on les comprend et qu'on les apprend mieux. Et tu as absolument raison. Et vraiment, moi, comme ministre de l'Éducation, c'est aussi ce message-là que j'essaye de passer. C'est que, bien sûr, c'est important d'avoir des cours comme on les connaît aujourd'hui, qui sont des cours magistraux, où le professeur apprend des choses aux élèves de façon théorique, parce qu'il faut bien apprendre des dates par cœur, il faut bien apprendre des formules par cœur, bien sûr. Mais pour bien comprendre le sens de ce qu'on a appris, c'est très important de pratiquer. Et ce que vous faites autour de ce projet radio, c'est exactement ça. Vous pratiquez, parce que finalement, en me posant tes questions, en m'écoutant, en préparant cette émission, ben vous avez pratiqué l'écriture, la lecture, sans doute l'histoire, la géographie et plein d'autres disciplines. Et donc, vous faites un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Vous travaillez toutes vos disciplines sans le chercher forcément ou sans le savoir forcément. Donc moi, j'y crois beaucoup et c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si tu as entendu parler d'une certaine réforme du collège, mais on a introduit une réforme du collège pour à partir de la rentrée prochaine, qui va donner beaucoup plus de place à ce type de projet collectif où on apprend en faisant. Et je crois que c'est une bonne chose pour les élèves.
Camille ?
Lorsque vous avez notre âge à l'école, est-ce que vous avez des souvenirs d'activités aux médias qui vous ont marqué ? Et est-ce que ça a beaucoup changé depuis ?
Quel âge tu as, ma belle ?
11 ans.
Non, je n'ai pas eu cette chance. En revanche, je crois bien qu'un peu plus tard, mais sans doute à la fin du collège, j'ai eu la chance de pouvoir participer quand même à la rédaction d'un journal collégien. Et de ça, je me souviens. Mais 11 ans, tu as de la chance. Hein. Vraiment, c'est formidable que tu puisses déjà en faire l'expérience. Et donc de ça, je me souviens d'ailleurs, pour ne rien te cacher, récemment, je suis retournée dans mon collège, qui est à Amiens, dans le nord de la France, et j'ai retrouvé une professeure que j'avais eue à l'époque, qui s'occupait justement avec nous du journal du collège, et qui m'a ressorti de ses archives un exemplaire de ce journal où j'avais écrit. Et tu peux pas savoir le bonheur que c'est que de se replonger là-dedans et de se dire « Ah bon, mais c'est moi qui ai écrit ça !» Et voilà, de retomber un peu en enfance. Donc c'est formidable parce que ce que vous faites là, ça laissera aussi des archives au-delà du plaisir que vous y prenez aujourd'hui. Imaginez-vous dans 20 ans en train de réécouter votre voix, parce que vous allez conserver, j'espère, des copies de tout ce que vous enregistrez. Donc c'est vraiment très bien.
Simon ?
En conclusion, Madame la Ministre, vous allez signer une convention avec le Syndicat national des radios libres. Est-ce important et pourquoi ?
Oui, c'est important. Si vous voulez, l'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment que l'école ne peut pas faire face toute seule à tous les défis auxquels elle doit faire face. Et face aux défis que j'évoquais de la désinformation des élèves et de la nécessité de les aider à se repérer dans le foisonnement d'informations, eh bien, on ne peut pas être tout seul, nos enseignants, à porter ce sujet. Donc, nos enseignants le portent, bien évidemment. Mais on a besoin de faire appel à des partenaires de l'école. Et les médias sont des partenaires de l'école. Il fut un temps où l'école était quand même assez fermée. Elle voulait pas trop laisser rentrer l'extérieur en son sein. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, au contraire, moi, je considère que dans la mesure où les maux de la société entrent dans l'école, on le voit bien, tous les débats, toutes les tensions qu'on connaît dans la société, par exemple, cette semaine, c'est la semaine de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Pour ne prendre que ce sujet-là, on ne va pas faire comme si le racisme et l'antisémitisme, ça se produisait dans la société, mais ça ne se produit pas dans nos écoles. Bien sûr que si, dans les cours de récré, il y a des insultes qui fusent, etc. Donc à partir du moment où les maux de la société entrent dans l'école, alors il faut qu'on aille chercher aussi dans la société des forces vives pour venir nous aider dans l'école. Et donc on a besoin des médias, en l'occurrence, sur ces questions d'information, de désinformation. Et les conventions que nous signons avec plusieurs groupes de presse nous servent à cela, à engager ces médias, à nous envoyer leurs journalistes, à venir nous donner un coup de main. Et là, avec ce syndicat, ben, je trouve que finalement, on complète bien notre panel parce que ça nous permet d'avoir les radios libres. Et les radios libres, c'est encore quelque chose de particulier. Vous n'avez pas connu ça parce que vous êtes trop jeune, mais moi, je me souviens, au début des années 80, ça a été un sacré combat que d'obtenir justement la possibilité pour les radios libres de diffuser sur les ondes. Ça a été d'ailleurs une grande décision du président de la République de l'époque, François Mitterrand, qui fait partie de ces progrès de société que plus personne aujourd'hui ne remettrait en question et qui a permis tout simplement à une vraie diversité de se faire entendre sur les ondes. Et donc avoir le syndicat des radios libres parmi nos partenaires, c'est aussi l'occasion d'aller parler de cette diversité, de cette liberté à nos écoliers, à nos collégiens, à nos lycéens.
Madame la ministre, merci de nous avoir accordé ce temps d'échange. Dans quelques instants, nous allons assister à la signature de la convention nationale avec le syndicat des radios libres. Nous étions ici au ministère de l'Éducation nationale à Paris à cette occasion et dans le contexte de la semaine nationale de la presse et des médias à l'école. Merci à vous.
Merci à vous et si vous me permettez, je voudrais juste dire que c'est quand même extraordinaire parce qu'on n'est pas dans un studio de radio. Alors que je suis sûre que les gens qui nous écoutent doivent avoir l'impression qu'on y est. Donc merci à tous ceux qui ont permis que cette salle du ministère de l'Éducation nationale soit transformée en studio. C'est une prouesse technologique.